Alors, on est dans une période, d'élection. Je peux pas vous parler d'élection, mais on parle beaucoup de salaire. Le monsieur qui est passé ou qui va passer, et l'autre aussi, parle beaucoup de salaire. Alors, moi, je voudrais m'arrêter sur une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Maxime de nos pères, qu'on va développer aujourd'hui, page 198. Une Mishnah, Pirkei Avot, c'est le Maxime de nos pères, dans le chapitre 4, Mishnah 2. Alors, page 198. La Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, apprends à calculer ce que tu perds en faisant une Avera contre ce que tu gagnes en faisant une mitzvah. Attends. Car le salaire d'une mitzvah est une mitzvah et la Avera entraîne une autre Avera. En d'autres termes, c'est une morale. La Mishnah veut nous apprendre à faire attention à notre comportement. Et la Mishnah te dit, tu sais, des fois quand tu fais une bêtise, bon, sur le coup, si tu l'as fait, c'est que tu as envie de la faire, la bêtise. Tu ne l'auras pas faite, sinon on ne fait jamais de bêtises par hasard. Je parle des vraies bêtises. La verra que tu veux faire. Sauf que si tu calcules ce que tu as perdu à long terme en faisant la verra par rapport à ce que tu as gagné, tu aurais pu gagner en faisant une mitzvah, c'est là que tu comprends qu'en vérité, tu as perdu. Bon, ça, c'est une Mishnah qui est relativement logique. Mais ce qui me dérange, c'est un petit détail de cette Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, le fait que me dit qu'une Avera entraîne une autre, ça c'est vrai, c'est logique. C'est vrai, c'est-à-dire que tu fais une Avera, après tu te laisses aller, tu fais une deuxième, une troisième. Mais comment il m'encourage à faire les mitzvot? Il me dit une mitzvah entraîne une autre, c'est vrai, mais le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Comment vous comprenez ça? Je sais pas si vous comprenez la complexité de ce que je suis en train de dire. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, vous allez embaucher quelqu'un. 36 heures, 39 heures, ce que vous voulez. Vous l'embauchez. D'accord? Arrive le jour de la paye. À la fin du mois, je veux ma paye. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, ton salaire, c'est de travailler pour moi. Vous en avez vu même un parti, même Poutou, il n'a pas dit ça.
Ça doit certainement exister quelque part.
C'est pas possible. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire? Schar mitzvah, mitzvah? Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire, le salaire d'une mitzvah est une mitzvah? Comment tu peux dire des choses comme ça?
Surtout que c'est difficilement quantifiable.
Exactement. D'abord, on parle. À la limite, dis-moi, le salaire du Mishnah, c'est le Gan Eden, c'est le paradis, etc. Bon, très bien. Je connais pas, j'ai pas vu, mais j'y crois. Mais tu me dis, le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui s'arrêtent sur la question.
Est-ce que c'est une dynamique, une mitzvah, à la
base? Oui, mais j'ai compris, mais ça change pas. C'est pas une définition, ça. Le salaire du Mishnah, c'est pas une mitzvah. Je peux pas dire à quelqu'un qui a travaillé, je dis, ben, ton salaire, c'est que t'as travaillé, et que maintenant, grâce au fait de travailler, ben, tu travailleras le mois prochain.
Mais là, on s'adresse à un homme normal.
Un homme normal?
D'accord.
Bah oui.
Ben...
Non, un homme normal. Ça sera, c'est tout le monde. On le lira tous dans le chapitre 4 de Pirkei Avot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Ça nous a été mis. Alors, je disais qu'il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà, il y a un élément de réponse qu'on a donné au début du chapitre 37. Là, je vous rappelle, on est dans le chapitre 39. Au début du chapitre 37, on a donné un élément de réponse. C'est quoi l'élément de réponse? C'est que finalement, le plus beau salaire, c'est lorsqu'on nous montre ce qu'on a construit en faisant la mitzvah. En d'autres termes. Nous, on pense que le salaire, c'est quoi? C'est j'ai travaillé, il va me payer. Maintenant, il n'y a pas de rapport direct entre la rémunération et le travail. Je vous donne un exemple très simple. À combien est le SMIC aujourd'hui? Pour l'instant. D'accord? 1400. Oh, on va dire en brut.
C'est ça, c'est en brut.
1400. Donc le SMIC en brut est à 1400. Ok? Imaginez une personne qui a travaillé. Travaille au SMIC. Il a travaillé au SMIC. À la fin du mois, je lui paye 1400 euros. Imaginons que je lui paye, déclaré bien sûr, mais je lui paye en espèces. Je lui donne 14 billets de 100 euros. D'accord?
C'est pas déclaré.
C'est pas déclaré. Bon. Bien sûr, évidemment, il faut enlever les...
Interdit, c'est 1000.
Évidemment. Bon, mais, alors 1000, très bien, je vais donner 1000, d'accord? 10 billets, je ne suis pas dans les comptes. 10 billets de 100. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre son travail et les 10 billets? Est-ce que son travail a produit les 10 billets? Non. Son travail n'a pas produit les 10 billets. Il était par exemple livreur, d'accord? Donc son travail était la livraison. Sa production était une livraison qu'il a faite. Sa production était le fait qu'il a construit. Seulement, le rapport entre son travail et les 1000 euros, il se passe dans notre tête. C'est nous qui faisons le rapport, qui dit, bon, ben écoute, tu as travaillé, donc tu as produit ça, et pour te récompenser, pour te rémunérer, c'est une rémunération, pour le temps que tu as passé. C'est pour ça qu'on dit en France une rémunération. C'est même pas un salaire. C'est une rémunération. Pour te rémunérer pour le temps que tu as passé pour moi, alors tu aurais pu le passer ailleurs, je te paye. Mais il n'y a pas de rapport direct entre l'argent que je lui paye et le travail qu'il a fait. Le rapport se fait dans notre tête.
Non.
D'accord. C'est la raison pour laquelle, dans un pays, un travail va être payé 1000 euros, et dans un autre pays, ce même travail peut être payé 1500 euros. Comment ça se fait? Si tu dis qu'on produit exactement la même chose, comment c'est que ça n'a pas le même prix? Parce que c'est pas seulement par rapport à ça, je parle plus profondément. Ça veut dire qu'en vérité, mon travail n'a pas produit d'argent. Mon travail a produit une valeur, quelque chose. Et cette valeur, on la transforme en argent. Par contre, imaginez par exemple que j'ai un terrain, donc je suis agriculteur, j'ai un terrain, et je vais avoir un métayer. Vous savez que c'est un métayer?
Oui.
C'est qu'un métayer, c'est une personne qui travaille pour moi, mais je ne le paye pas en argent.
Je le nourris
en nature. Ça veut dire, je lui dis, tu vois les fruits que tu as plantés? Tu vois les fruits que tu as travaillés? Je te paye avec ces fruits. Là, il y a un rapport direct entre sa paye, l'argent qu'il a reçu, enfin le bien qu'il a reçu, et son travail. Le rapport n'est pas seulement dans notre tête, c'est un vrai rapport. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est très simple. On pense souvent par erreur que Dieu va nous récompenser, va nous rémunérer. Du style, il dit, écoutez, vous êtes bien gentil, vous aurez pu passer votre temps à faire ce que vous voulez, vous l'avez passé pour moi, vous avez fait des mitzvot, donc je vais vous rémunérer, j'ai prévu pour vous un paradis en haut. C'est comme ça qu'on s'imagine. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport direct entre le paradis d'en haut et mes mitzvot? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Le paradis, il est en haut, mes mitzvot sont en bas. Et c'est là que vient l'Admor HaZaken au début du chapitre 37, il te dit, eh ben non, c'est faux. Il te dit, en fait, lorsque tu fais une mitzvah, tu es en train de générer le salaire. Ça veut dire, lorsque je fais une mitzvah, je suis en train de générer le monde futur. Et lorsque je vais arriver en haut, c'est pas que je vais dire, écoute, comme t'as bien bossé, alors je vais te payer. Tu vas dire, non, je vais pas te payer. Je vais juste te montrer ce que t'as fait. Je vais te laisser kiffer ce que t'as fait. Tu vas dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. C'est la même chose. Lorsque mon cher va venir, à 4 jours, il n'a même pas besoin de nous récompenser. Il suffit qu'il ouvre le rideau. Comme on dit en hébreu l'exil? Gola. Galout, Gola. Comment on dit en hébreu la délivrance? Geoula. Ça s'écrit de la même façon. La seule différence, c'est que dans le Geoula, j'ai rajouté la lettre Aleph. Aleph, c'est le symbole de or, la lumière. Ça veut dire que c'est le même monde. Dieu ne va pas te dire, écoute, je vais te faire un nouveau monde, hop, out, Geoula, Galout, et je te mets in, Geoula. Pas du tout. Dieu dit, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'éclairer ce que tu as fait, et là, tout de suite, tu vas dire, mais c'est ça mon salaire. C'est que je vois ce que j'ai construit moi-même. C'est mon plus beau salaire. Et c'est comme ça qu'on a expliqué Srar Mitzvah Mitzvah. Que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Dieu va me payer, pas de problème. Mais le plus beau salaire, c'est pas la paye. Le plus beau salaire, c'est quand je vois le résultat de ce que j'ai fait. C'est de la même façon, vous avez un employé qui va travailler. Il a travaillé pendant des années sur un projet, et il voyait pas vraiment où ça allait. Alors, chaque mois, il était payé, mais il comprenait pas où ça allait, il comprenait pas quoi ça servait. Et au bout de plusieurs années, on va dire, maintenant, viens, on va t'expliquer, on va te montrer. Et là, tu lui montres comment tout le travail qu'il a fait était très important dans le plan général et comment son travail était important, était primordial, irremplaçable, indispensable. Mais c'est le plus grand plaisir, c'est la plus belle paye, ça. Quand tu vois que tu sers à quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait, Paro, vous savez. Comment il faisait Paro pour démoraliser les Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il faisait? Il est payé, Paro, vous savez. Paro, il est payé. On était nourris, logés, et des fois on avait même des petites bouteilles. Mais vous savez ce qu'il faisait, Paro? Il lui demandait, très simple, il dit, vous allez construire des pyramides, des maisons, etc. On construisait. Dès qu'on a terminé de construire, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, maintenant vous allez les détruire.
Ils ont détruit,
après hop, vous reconstruisez encore. Le même endroit. Tu reconstruis, tu détruis. Tu dis, mais ça, qu'est-ce qu'on est payé? Quel problème? C'est impossible. Marel raconte qu'une fois, il y avait Titus. Vous connaissez Titus? Titus, c'est celui qui a détruit le Beth-Amikdash. Et Titus, il a voulu affronter Dieu. Et il a dit la chose suivante. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, regarde, moi je suis venu t'attaquer dans ton domaine. Je suis venu t'attaquer chez toi. Parce qu'il est venu au Beth-Amikdash. Il a souillé le Beth-Amikdash. Alors, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas répondu. Et à un moment, lorsqu'il était dans la mer, de retour avec tous les ustensiles du Beth-Amikdash, d'ailleurs, il en a fait une partie de la fameuse porte de Rome, là-bas, où il y a tout l'Arc de Triomphe. Et donc, lorsque Titus revient, la mer commence à bouger. Et là, Titus, il attaque, il dit, ah, j'ai compris, ta force est dans l'eau, toi. Ah, c'est comme ça que tu l'as eu, Paro, aussi. Ta force est dans l'eau. Viens te battre sur la terre.
La terre ferme.
Comme ça, il dit adieu. Et Dieu, c'est sorti dans ses écrits. Là, c'est une histoire, que je vous raconte, c'est pas des histoires, c'est pas des contines. Alors, Dieu lui répond, non, mais c'est pas n'importe qui. Dieu lui répond, il lui dit la chose suivante, il lui dit, enfin, je sais pas s'il lui répond directement, ou en tout cas, Dieu répond, en tout cas. Dieu lui dit, ah bon? Tu crois que moi, j'ai besoin de monter à la surface pour me battre? Viens, je t'attends, pas de problème. Tout de suite, la mer s'est calmée. Il dit, tu vas voir à la surface, c'est pas moi qui vais me battre avec toi. Je vais envoyer une moustique. Un moustique.
Exactement.
C'est tout. Juste un moustique. Tu vois le moustique, tu le prends dans le nez. Il est arrivé, dès qu'il est descendu, il y a un moustique qui est venu, qui est rentré dans son nez. Maintenant, vous allez voir pourquoi je raconte cette histoire. Alors, il y a un moustique qui est rentré dans son nez, et il est rentré à l'intérieur. Il se nourrissait de son cerveau. Et donc, il grossissait. Parce que vous savez, le moustique, c'est un des seuls insectes qui fait que prendre, mais qui ne rejette jamais. Alors, normalement, il meurt. Normalement, tellement il mange qu'il explose. Mais ce moustique-là, il mourait pas. Donc il faisait que pomper son sang. Mais hein. il grossissait. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le bourdonnement et aussi mal de tête, les douleurs qu'il y avait. Et hein, on raconte qu'une fois, la Gemara raconte dans Guitine, il est passé devant un orfèvre. Il est en train de se balader, il est passé devant un orfèvre. Et avec le bruit, il a vu que le bruit, ça l'a calmé. Je sais pas, ça calmait quelque chose. Apparemment, le moustique, dès qu'il entendait le bruit de l'orfèvre, il se calmait. Le bruit du fer. Alors, il a une idée. Il a dit, mais moi, j'ai tout l'argent que je veux. Donc, il a dit, je vais payer, chez moi, à la maison, dans mon palais, un forgeron. Un forgeron qui va travailler le fer. Je vais payer pour taper, c'est tout. Je le paye. Alors, il a dit, tant qu'à faire, je vais appeler un juif. Ah oui. Il a appelé un juif, il a dit, écoute, c'est à cause de vous tout ça, donc je te paye le salaire de base d'un forgeron. Et Marel raconte que des fois il y avait un juif qui venait, et des fois c'était un non-juif qui venait. Alors lorsque c'est un juif qui venait, des fois il payait même pas, en lui disant, sois content déjà que tu me vois en train de souffrir, d'accord? Et des fois c'était un non-juif, et là il payait. Seulement la Gemara raconte que, bon, après avec le temps, le moustique, c'est pas un moustique, c'est un oiseau carrément là, Il s'est habitué au bruit, donc du coup, il a continué à bourdonner. Et la Gemara raconte là-bas, c'est pour ça que je vous parle de ça, elle raconte qu'à un moment, il a dit à une personne qui travaillait, qui revenait plus, il a dit, pourquoi tu reviens pas? Il a dit, parce que ça sert à rien ce que je fais, je tape, mais je construis rien du tout. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Quand tu veux, je te paye plus que ce que tu as là-bas, qu'est-ce que t'en as à faire? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le forgeron? Il a dit, j'ai pas besoin que tu me payes plus. Moi, ce que je veux, c'est construire. Je suis là en train de taper comme si je coupe, mais je coupe rien du tout. Je fabrique rien du tout. Et là-bas, la Gemara, dans un autre, on a un exemple. Elle dit, c'est comme si, par exemple, il prenait un exemple. Il y a une fois un roi qui a demandé à un sujet, il lui a dit, je vais te payer pour être chez moi à la maison, prendre une faucille, tu vois, au lieu de couper du blé avec ta faucille dans le champ, tu vas faire le même mouvement comme ça, avec la faucille. Et je te paye la même chose ou plus cher. Et c'est moins fatigant parce que tu coupes rien. C'est comment tu comprends rien? Tu brasses de l'air, quoi. Il a craqué. Pourquoi il a craqué? Parce qu'il n'a pas construit. Il n'y a pas de plus grande souffrance pour une personne de voir que tu ne construis pas. Tu vois que tu ne sers à rien. C'est pour ça que le bon Razaken te dit, c'est comme ça qu'il explique la Mishnah. C'est Ah ben bah, il est mort, son cerveau a explosé à la fin. Et la Gemara a dit que quand on a ouvert son cerveau à la fin par curiosité, bonsoir, et il y avait un moustique qui était gros comme ça. Qui était gros comme ça, vraiment, comme ma main, tu vois. Énorme. Bah parce que il faisait que grossir. Il y a beaucoup de sang dans la tête. Hein. Et donc, voilà. Alors, en tout cas, ce que je veux montrer par ici, c'est que le plus beau salaire pour une personne, c'est quoi? C'est de voir qu'on est productif. Il n'y a pas de pire qu'une semaine dans laquelle tu sens que tu n'as pas été productif. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, t'es au boulot, t'es venu à l'heure, t'es reparti à l'heure, etc. Mais tu sens que tu brasses du vent, tu sens que tu sers à rien, quoi. T'arrives des fois à la fin d'une journée, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est pas agréable à vivre. Alors bon, il y a des gens qui sont contents. Non mais vous allez me dire, alors, les mauvaises langues diront, ouais, les fonctionnaires, ils sont contents quand ils ont rien fait. Ils ont dit, c'est une bonne journée, on n'a rien fait. Mais pas du tout. Parce qu'un être humain peut pas être content quand il n'a rien fait. Il peut peut-être se sentir, hein, il peut être peut-être un peu fainéant, ne pas avoir envie de travailler. Mais au final, on n'est pas content quand on n'a pas travaillé, parce qu'on ne se sent pas productif. Le fait de ne pas sentir productif, on ne se sent pas bien. D'accord? C'est pour ça, vous verrez, vous remarquerez d'ailleurs, une journée où on se lève tard, on est plus fatigué qu'une journée où on se lève tôt. C'est comme ça.
Exactement.
Vous avez dû faire l'essai certainement. Une journée où tu te lèves tard, la journée elle est morte. D'accord? Alors qu'une journée où tu te lèves tôt, t'es peut-être fatigué à la fin de la journée, mais t'as bossé. Baruch HaShem. Donc, Adam, les Amal, Yulad, l'homme a été créé pour se fatiguer. Et donc, de la même façon, je disais, le plus beau salaire qu'on aura lorsque ma chère viendra, mis à part le fait que Dieu nous récompensera, etc., ça c'est très bien. Le plus beau salaire, c'est quoi? C'est de voir le résultat. Je donne encore un dernier exemple, après avancer dans le texte. C'est un peu comme un enfant. Lorsque l'enfant est petit, il n'a pas envie de faire ses devoirs, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie d'aller à l'école, il n'a pas envie de faire ci, il n'a pas envie de faire ça. Tu vas lui promettre une récompense. Tu vas dire, si tu veux bien te comporter, je vais t'acheter. Qu'est-ce qu'on va lui acheter?
C'est des cadeaux.
On va t'acheter un cadeau. D'accord? Donc, comment l'enfant il va se convaincre? L'enfant il va se convaincre en se disant, ben voilà, je vais aller à l'école, je vais travailler, comme ça j'aurai un cadeau. C'est ce qui se dit l'enfant. C'est-à-dire que tu lui demandes maintenant, lorsqu'il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi t'as travaillé, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il dit, oui, moi j'ai travaillé pour avoir un cadeau, peut-être qu'il va comprendre, j'ai travaillé parce que pour mon père c'est important, parce que je pense que c'est important dans l'avenir, mais il n'a pas compris. Mais quand ce jeune enfant, il va grandir, et qu'il aura après 20 ans, et qu'il va comprendre, il va voir la différence, il va aller dehors dans la rue, il va voir la différence entre Manishtana, entre ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui étaient des cancres toute la rue, toute la journée, depuis l'âge de 8 ans, ils n'ont jamais mis les pieds à l'école, et entre lui. Et là, il n'a même pas besoin de salaire. Le fait juste de voir son résultat, de voir ce qu'il est devenu et ce que les autres sont devenus, mais il va remercier ses parents, intérieurement ou extérieurement, il va le remercier, il va dire, mais c'est ça mon salaire. Mon salaire, c'est que je vois la productivité, je vois ce que ça a donné. De la même façon, srar mitzvah, mitzvah. Le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Vous l'avez compris, que c'est la même chose de l'autre côté. La plus grosse punition pour une avéra, c'est quoi? C'est l'avéra. C'est l'avéra elle-même. Pourquoi? Mis à part la punition, la claque qui va se prendre, ou la punition, ou etc. La pire punition, c'est quoi? C'est quand tu montres à une personne ce qu'il a détruit. Tu lui fais réaliser ce qu'il a détruit. Tu vois ça? Plus jamais on pourra le reconstruire comme c'était avant. C'est terminé, c'est mort. C'est là qu'il comprend la gravité. Et de la même façon, lorsque Dieu voudra nous punir, pas pour nous embêter, pour nous pousser, pour nous aider à réparer, lorsque ma chère viendra, et même en haut, après 120 ans, il a même pas besoin de nous punir. Et le fait même déjà qu'il nous montre ce qu'on a fait, qu'il nous montre et qu'on voit l'ampleur de ce qu'on a fait, c'est déjà la plus grosse punition qui puisse exister. Je dis, mais quoi, mais c'est moi qui ai fait ça? Oui, t'as vu, c'est toi. Hein. Toi, tu croyais juste une petite bêtise comme ça, mais en réalité, t'as tout détruit. T'as appuyé sur un bouton, t'as tout fait sauter. Voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on comprend cette Mishnah dans le Pirkei Avot. Vous aurez une nouvelle Kavana maintenant dans chapitre 4. Cette semaine dernière, on a fait chapitre 1. Donc, cette semaine 2, semaine prochaine 3, etc. La semaine d'après 4. On comprend beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Mais là, l'Admor HaZaken va rajouter encore un autre point. Dit la chose suivante. Vehine, page 198. Vehine, srar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Et la mitzvah elle-même, comme on a expliqué longuement. Le plus beau salaire du mitzvah, c'est quoi? C'est le fait même d'avoir accompli la mitzvah. Et alors? Pirouj, ça veut dire, shemisrara, neda, mahuta ou madrigata. Explique l'Admor HaZaken, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement ça veut dire que le plus beau salaire est de voir le résultat, comme on a expliqué longuement, mais encore plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux comprendre l'ampleur et la teneur d'une mitzvah, il faut voir son salaire. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le salaire d'une mitzvah n'est pas une rémunération. C'est un résultat. J'ai créé le salaire de la mitzvah par mes efforts.
C'est une réalisation.
Donc si j'ai du mal à comprendre l'ampleur de la mitzvah, j'ai du mal à comprendre l'enjeu de la mitzvah, il suffit de voir la récompense que Dieu m'a promis pour cette mitzvah, et en analysant la récompense, étant donné que la récompense de la mitzvah est le produit de l'effort de la mitzvah, donc en analysant la récompense, je comprendrai quelle était l'ampleur et quelle était l'importance de l'effort. Et on va donner un exemple tout de suite. Pour expliquer que parfois dans la vie, pour comprendre l'importance d'un acte, il faut voir le résultat. Et on va donner des exemples. D'accord? Maintenant, il précise tout de suite. V'en lanou esek benistarot. On va pas rentrer dans le sod. On n'est pas en train de rentrer dans les nistarot, dans les choses cachées, dans les choses cachées, dans le sod. On va essayer de rester dans des choses simples. Essayer d'expliquer comment, en analysant un résultat, on comprend ce qui a produit ce résultat. D'accord? Vous savez que dans la logique, il y a plusieurs méthodes de logique. Il y a des fois des choses qu'on arrive à comprendre directement. Bon, des choses, des phénomènes naturels, scientifiques, médicaux, etc., physiques, qu'on arrive à comprendre directement. Il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre directement, qu'on doit passer par d'autres procédés. On peut par exemple, des fois, procéder par élimination. D'accord? Par analogie. Il y a plusieurs méthodes. Mais une des méthodes, c'est une méthode qui est souvent utilisée dans la Torah, c'est analyser quelque chose en voyant son résultat. Ça veut dire, des fois, j'ai du mal à comprendre l'ampleur d'un acte, donc je vais voir le résultat, je vais voir où ça me mène tout ça. Une fois que j'arrive au résultat, c'est là que je comprends rétroactivement l'importance de la chose. Et on va donner des exemples.
J'ai mis juste une question. Quand je mets mes téphilines, concrètement, moi, qu'est-ce que ça génère là-haut ou sur Terre ou là-haut, on perçoit pas les... Comment parce que vous parlez de salaire, mais moi, le commun des mortels, quand on fait une mitzvah,
on ne connaît pas le salaire.
On ne sait pas ce qu'on déclenche.
J'ai compris. C'est pour ça que je vais expliquer aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, monsieur Silam, ce que je vais faire aujourd'hui, on va donner des exemples. On va expliquer ce qui se passe lorsque je fais une mitzvah. Ce qui se passe réellement. Derrière les coulisses.
Oh. D'accord.
Et en fait, on va pas comprendre ce qu'on va nous dire, parce qu'évidemment, c'est pas des choses qui nous correspondent. On va parler des sphères célestes. Mais lorsqu'on va expliquer ce qui se passe en haut, c'est là qu'on va se rendre compte de l'importance de ce qu'on fait ici. Même si on le voit pas. Sans le voir. Parce que si on le voyait, on va suivre tout de suite. D'accord? Alors. Il explique. Rak aniglot lanou. Donc je suis, Shem Sadikinok Dene Shem Krilat Merkava. Je suis en bas de la page 198. Rak seulement.
Tenez.
A niglot lanou. Ah ben je non parce que je... Rak suivant c'est bien. Rak a niglot lanou. On va parler seulement de ce qui est dévoilé pour nous. Sheachareim kol adam imshor ledan et emana. Des choses simples. On va chercher des choses simples. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quel est le salaire du mitzvah. Voilà, on va parler d'un salaire. C'est quoi le salaire de la mitzvah. Alors on va expliquer. Ki mahu tu madrigat avodat Hashem bitrilu chimou. J'explique. Alors, on est au milieu de la page 199, hein, parce que je vais expliquer tout de suite. Tu dis la chose, non, j'ai pas sauté, j'ai lu vite. Il te dit la chose suivante. Tu dis, dans les sphères célestes, il y a deux niveaux. En fait, il y a quatre niveaux. Il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. D'ailleurs, on aura l'occasion dans les chapitres suivants de développer beaucoup plus longuement ces quatre mondes, ces quatre dimensions. Quatre dimensions de chaque chose. Atzilut en hébreu, c'est l'émanation. Beria, c'est la création. Yetzira, c'est la formation. Et Asiya, c'est l'action. Ça représente, si vous voulez, en fait, les quatre étapes qu'il y a depuis le début de la création. C'est-à-dire, Dieu, comment s'est passée la création du monde? On dit que toute création, même la création humaine, à plus forte raison une création de Dieu, passe par quatre étapes. Première étape, c'est l'émanation. L'émanation, c'est flou. C'est juste, c'est une idée qui est là, qui émane. D'accord? Deuxième étape, c'est la création. Là, on va commencer à créer. C'est plus une idée, on va créer. Mais ça reste encore, c'est un début de création. C'est-à-dire, il n'y a rien de concret. Troisième étape, formation. Ça commence à prendre forme. Quatrième étape, Asiya, action. Alors, nous, le monde dans lequel on évolue, la dimension dans laquelle on évolue, et ce que nos yeux arrivent à percevoir, parce qu'en vérité, quand je dis des mondes, c'est pas des mondes, c'est ici que ça se passe. La dimension que nos yeux arrivent à percevoir, c'est quoi? C'est uniquement l'action. On n'arrive pas à voir plus que ça. Les tzadikim arrivent à aller plus loin. Les tzadikim arrivent à ressentir, parfois, le monde de la formation. C'est-à-dire, ils arrivent à voir comment les choses se forment. Ce qui se passe ici, maintenant, quand je vous parle, ils arrivent à le voir. Il y a des tzadikim encore plus élevés qui arrivent à voir non seulement comment c'est fait, comment ça se forme, mais ils arrivent à voir comment ça se crée. Et il y a des très grands tzadikim qui sont tellement forts que non seulement ils arrivent à voir comment c'est créé, comment ça se forme et comment c'est sur le terrain, ils arrivent carrément à voir l'émanation, c'est-à-dire l'idée originelle chez Dieu. C'est un niveau. Vous comprenez que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, il te dit, je te donne maintenant un exemple très simple. Imaginons un juif qui met les tfilines. Voilà, exemple concret, un juif qui met les tfilines. J'ai deux cas de figure. Premier cas de figure, il a mis les téphilines avec Kavana. Deuxième cas de figure, il a mis les téphilines sans Kavana. D'accord? Alors nous, on a envie de dire, bah, finalement, qu'est-ce qui se change? Il les a mises. Téphilines, les a mises, qu'est-ce que ça change? Alors tu dis, tu sais, tu as raison, tu poses une bonne question. Tu dis, de toute façon, il les a mises, il a fait la mitzvah. Alors où est la différence? Bah, tu sais, je vais utiliser le principe que je viens de te dire. Que parfois, la seule façon de comprendre l'ampleur d'un acte, c'est en analysant le résultat de cet acte. Or, on sait dans les livres de Kabbalah qu'une mitzvah qui est accomplie, avec Kavana, elle arrive directement au monde numéro 2. Ça veut dire que directement, cette mitzvah s'élève au niveau de la création, à l'endroit où c'est créé. Elle arrive à ce niveau-là. Alors que nous dit le Zohar, une mitzvah qui n'est pas accompli avec kavana, ou dans le meilleur des cas, elle est accomplie avec une kavana naturelle. Ce kavana naturelle, ça veut dire bon, le fait que dans mon cœur j'aime Dieu, mais en fait, je me suis pas appliqué à le faire, quoi. Juste, je l'ai fait naturellement. Ben, une mitzvah comme ça, elle arrive elle seulement au niveau numéro, elle arrive seulement au niveau numéro 3. D'accord? Enfin, ça dépend d'où vous le prenez. On va le prendre d'en bas, comme ça c'est plus simple. D'accord? Donc, tu as 1, 2, 3, 4. D'accord? Une mitzvah avec kavana intellectuelle réfléchie, elle arrive au niveau 3. Une mitzvah sans kavana,
Niveau 3, c'est Asiya ou c'est...
Niveau 3, je suis parti du bas, là. Niveau 3, par rapport à nous, niveau 3, c'est-à-dire le monde de la création. Alors qu'une mitzvah, bonsoir, une mitzvah accomplie, sans kavana, on va dire, travailler avec une kavana naturelle. Bon, je l'ai fait parce que j'étais un petit peu dedans. Ça arrive seulement au niveau 2. Et je vais vous dire plus que ça. Une mitzvah que je fais sans kavana, elle reste bloquée en bas. Elle décolle pas du tout. Je dis pas qu'elle vaut rien. Elle vaut quelque chose. Parce que peut-être un jour on aura, peut-être un jour on aura une kavana qui permettra à cette mitzvah de décoller. Mais elle reste bloquée en bas. Alors tu dis, voilà, tu comprends. Tu dis, mais attends, moi, si j'analyse les choses sur le plan de la assiya, de l'action, comme la question de M. Shilam, si j'analyse au niveau de l'action, ben je dis au niveau de l'action, ben moi j'ai mis les tefilines, c'est les mêmes tefilines si je fais avec kavana excellente, avec kavana moyenne ou sans kavana, c'est la même chose. J'ai mis les tefilines matérielles. Oui, j'ai compris. Tes tefilines matérielles, c'est les mêmes. Sauf que les tefilines matérielles que tu as mis, ça reste au niveau 0, ça. C'est en bas, ça n'a pas monté. Enfin, au niveau 1, c'est en bas, ça n'a pas monté, ça. Par contre, ce que tu sais pas, c'est que si tu avais fait une petite kavana, tu serais monté un niveau de plus. Ta mitzvah serait montée un niveau de plus. Et si tu as fait la mitzvah avec une kavana excellente, ça veut dire avec toute ta tête dedans, tu serais montée un niveau encore plus haut. Donc ça, c'est un exemple pour nous montrer que parfois, pour comprendre l'ampleur et l'importance d'un acte, il faut suivre le résultat. Et puisque la Kabbalah, le Zohar, nous explique la différence de résultat qui est très claire, d'accord, t'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, et qu'il n'y a pas de secret, t'as pas de kavana, ça ne montera pas. C'est là qu'on comprend l'importance de la kavana. Ça veut dire, il te dit en d'autres termes, il te dit, nous on se pose souvent la question, mais finalement, que ça change quoi si j'ai fait la kavana ou pas? Voilà, ce matin j'ai mis les tefilines. Qu'est-ce que ça change si j'ai fait la kavana ou pas? Ça change qui? De toute façon, j'ai mis les tefilines. Il dit, toi tu crois que ça change rien. Mais si tu analyses le salaire que le Zohar te parle, le salaire que le Zohar t'explique, la différence t'es fait avec ou sans kavana, tu comprends que c'est un autre monde. C'est autre chose. Et donc quand on apprend des choses comme ça, on se rend compte à quel point la kavana est très importante. Et je vais vous donner quelques exemples dans la vie de tous les jours pour montrer à quel point on ne se rend pas compte, mais la kavana peut tout changer. D'accord ? Je crois qu'il y avait des questions avant.
Ouais. J'ai une remarque. Concernant la pratique avec ou sans kavana, un individu ne peut pas être depuis le début jusqu'à la fin de sa vie en permanence en mode kavana.
Oui.
Si c'est de manière très aléatoire. Donc il y a certains jours, on va faire super, on va monter au 3.
On verra après, je comprends la question. On verra après ce qui se passe avec les tefilot qu'on a fait sans kavana, comment on peut les faire décoller. Hein, vous vous rappelez, c'est ceux qui ont fait le premier passage du Tanya, selon le deuxième passage, se rappellent certainement de petit oiseau, si tu n'as pas d'aile,
tu peux pas
voler. On a expliqué qu'une mitzvah. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un oiseau sans ailes. Tout est là, mais il n'y a pas les ailes. Oui. Mais on verra après. Plus tard,
c'est-à-dire que
40, Razak.
Quand tu mets les téfilines, et que c'est de l'ordre de l'objet que tu mets,
oui.
Bon, mais moi, je me suis rendu compte que si je mets les téfilines tout seul, je n'ai pas ce sentiment comme ça d'exister vraiment avec moi.
Ouais.
Il y a du lien entre moi et les tefilines, ce que ça peut m'apporter. Mais par contre, si je les mets ici, comme ce matin, c'est bon. À la synagogue, il y a tout le monde qui est là. Je profite de la kavana de tout le monde.
Et ça décolle.
Et dans ma tête, il y a quelque chose qui
se passe. Et c'est
autre chose.
C'est autre chose.
Et c'est très important.
Bien sûr.
Tu vois,
c'est
pour ça. Tu vois, c'est...
Oui.
Il y a du lien.
Oui, allez-y.
Vous répondez pas partiellement ou pas à ma question?
Non, je vais vous expliquer. Une réponse rationnelle, je pourrais pas vous donner.
Pas rationnelle. Enfin, rationnellement.
Enfin, une réponse, en tout cas, une réponse terrienne. Je pourrais pas vous donner une réponse terrienne, matérielle.
Non, justement, pas terrienne. C'est justement. Terrienne, j'ai pas de problème.
Il n'y en a pas. Des réponses terriennes, j'en ai pas. Oui, mais si vous analysez en mode terrien, en ce qui concerne la terre, en mode matériel, quelle différence si je mets les tefilines en pensant à ce que je fais ou en pensant pas à ce que je fais? C'est les mêmes tefilines, c'est la même chose. L'acte est le même. Au niveau de l'action, le résultat est exactement le même.
À notre petit niveau,
je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez par exemple que je vais donner la tzedaka. On peut avoir plusieurs raisons pour en donner la tzedaka. Je parle d'une personne qui a donné la tzedaka parce que vraiment il a la kavana, il veut vraiment aider. T'as une autre personne qui a donné peut-être la tzedaka parce qu'il veut qu'on l'honore. T'as une autre personne qui a donné la tzedaka par routine. Non, concrètement, c'est le même billet qui est sorti de ma poche. Oui. Donc on y, et le pauvre, il a reçu exactement le même billet. Donc c'est un autre exemple où on voit que on a du mal à comprendre quel est l'impact de la kavana. Parce que finalement, c'est quoi le problème? C'est quoi le plus important? C'est que le pauvre a reçu son billet. Il a reçu son billet. Qu'est-ce qu'on a à faire pourquoi il a reçu son billet?
Et est-ce que c'est notre problème?
Alors justement, bien sûr, c'est ce qu'on te dit.
Est-ce que c'est pas le problème du bon Dieu?
Ah non.
Parce que si le bon Dieu me dit, fais une action.
Je l'ai faite.
Moi après, je suis programmé pour faire ou ne pas faire l'action.
Ah oui.
Si je la fais, je la fais. Et après, si l'action que j'ai faite, ben écoute, c'est à lui de nous donner ce que l'on a construit avec notre action.
C'est vrai.
Que je suis dans ces comptes à lui, je ne serai jamais dans ces comptes.
Oui, mais ce même Dieu, il te demande, il te dit, je ne veux pas seulement que tu fasses la mitzvah concrète, je veux que tu aies la kavana aussi. Rappelle-toi que jusqu'au chapitre 38, d'accord, alors on est au 39, on était axé principalement sur l'action. Là, on change de registre. Là, on dit, ah bon, l'action c'est bien, maintenant il faut expliquer l'importance de la kavana. Et c'est là qu'on comprend. Tu comprends, d'un côté, tu as un gars qui est venu, qui a donné de l'argent. Par routine, ou parce qu'on lui a cassé les pieds, ou parce que point, il n'en a rien à faire. Et de l'autre côté, t'as un bonhomme qui a fait un effort, qui vit la mitzvah, le billet est le même. Mais la kavana n'est pas la même. Alors, est-ce que nous, en terre à terre, on peut comprendre la différence? Non, on peut pas comprendre la différence. Mais lorsqu'on voit ce que le Zohar dit, le Zohar t'explique la différence, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est là que tu dis, mais attends, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu dis que finalement, quand je fais une mitzvah avec kavana, ma mitzvah est le même niveau que les plus grands tzaddikim. C'est-à-dire, moi, je suis terre à terre, mais ma mitzvah, elle est montée. Et elle m'attend en haut. Alors que si j'ai pas de kavana, elle reste bloquée avec moi en bas. Elle est là.
Non, mais c'est pas ça qui dit. Il vient pas là, hein.
Là, on a déjà étudié ça. La kavana sans kavana, on a étudié ça.
Non, là, on explique l'importance de la kavana.
D'accord, mais on l'a étudié.
Oui.
La question, c'est pas ça. La question, c'est concrètement, on parle de salaire. Il y a un moment, c'est faut mettre les idées derrière les mots. Salaire, c'est quelque chose de très concret. J'ai travaillé tant d'heures, je vais gagner tant d'argent, c'est palpable. Je comprends pourquoi je travaille, je comprends l'interaction entre le travail et le salaire.
Oui, mais le problème, c'est que, je donne un exemple.
D'accord.
Je comprends. Oui.
Non, c'est pas ça.
Ce que je veux dire, c'est l'exemple que vous devrez donner, c'est imaginer par exemple quelqu'un, un enfant qui va travailler, et on va lui dire.
Une application, nombre de fois, comment tu mets les...
D'accord, mais nous, là-haut...
Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que je vous dis, je veux parler à un enfant qui a 5 ans. Et je lui dis, tu vas faire une bonne action, et je te récompenserai lorsque tu auras 20 ans. Tu recevras ta récompense lorsque tu auras 20 ans. La récompense qu'il va recevoir lorsqu'il a 20 ans, il n'est pas en état d'asseoir maintenant, à l'âge de 5 ans. Et attendez, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas. Il l'aura. C'est pour ça que nous on fait pas ça avec un enfant. Tu peux pas lui dire je te donne une récompense à 20 ans parce que la récompense qui l'intéressera à 20 ans, elle l'intéresse pas à 5 ans. Ça marche pas. Mais ce qui complique les choses avec Dieu, entre guillemets, c'est que Dieu te dit, moi je vais te demander de travailler, bon je vais donner une partie du salaire en bas, tu auras une vie heureuse, etc. D'accord? En tout cas, c'est pas mal. Mais il te dit le vrai salaire, c'est pas ça, le vrai salaire c'est en haut. Mais ça tu peux pas le savoir, tu le vois pas le salaire qui est en haut.
Là, non, mais ça veut dire, en fait, imaginez un peu la difficulté. Donc quand toi je parle pour le travail, fais ton travail.
Voilà.
Ok. Tu sais pas.
Si, je sais.
Non.
Enfin, tu dois y croire, quoi.
Il se passe quelque chose pour toi sur un compte quelque part.
Non, tu comprends pas, peut-être, mais
non, tu comprends pas. Ça veut dire dans le sens, moi quand je mets tes films, je sais pas quel monde je fais bouger.
Ah oui,
quelle interaction, est-ce que, quand je donne 10 euros de Tzedaka, peut-être que ça fait bouger des mondes derrière.
Il y a un compte qui vous attend en haut, et c'est légal. Ouais. Alors.
Oui, sauf que vous, en tant que terrien.
Il est légal, celui-là. Alors.
Vous, en tant que, être humain.
C'est quelle banque?
C'est la banque HM.
Mais tout est relatif, parce que vous n'avez pas une vision. Qu'est-ce qui fait qu'un mec, il va travailler? Qui va bûcher.
Parce qu'il y a ce salaire qui arrive.
Il est motivé.
Ah oui, non, il voit le salaire. Ouais.
Il voit son compte en banque, il voit qu'il a acheté une maison, il voit que c'est une voiture. La difficulté du temps où on revient à la cavana, c'est que quand c'est le problème de tout le monde. C'est qu'à partir du moment où vous faites des mitzvahs, et que derrière, tu vois pas.
Le résultat.
Donc, forcément, tu le vois pas.
Mais là, c'est effectivement spirituel.
Tu vas comprendre peut-être une fois que tu seras mort. Mais
c'est là que commence la vraie vie.
Oui, d'accord. Mais
oui, d'accord.
Et d'où la difficulté de la kavana, c'est que le type qui va, entre guillemets, qui va s'épuiser, mais qui va pratiquer et qu'il ne voit pas le machin et qu'il et y a un moment où les gens ils s'épuisent, ils redescendent ou ils vont remonter, etc. C'est ça la difficulté, on revient à la Kavana. Si maintenant, entre guillemets, c'est comme si de temps en temps, on est devant un spectacle comme ça, ou tu entends des bruits de spectacle, tu entends des choses machin, et puis tu vois rien. Putain, est-ce qu'ils. Enfin, entre guillemets, de temps en temps, on fait. Regarde, t'as vu? Ah, tu refais. Ah, le mec, il va être.
On en exil, c'est pour ça qu'on en exil. C'est ça la complexité de l'exil, bien sûr, évidemment.
C'est là toute la difficulté de l'individu qui se dit.
Alors, attention, je voudrais juste préciser un point très important. Jusqu'au chapitre 38.
Un peu d'acompte,
ouais. Jusqu'au chapitre 38, Rabotaï.
Oui, on écoute.
On était. Monsieur Silav, vous voulez la réponse ou pas?
Non, j'attends de l'avoir après son.
Non, vous inquiétez, vous avez un début de réponse, Melan. Jusqu'au chapitre 38, si vous voulez, on était encore dans un premier niveau. Ça veut dire un niveau dans lequel on te dit, écoute, ce qui compte, c'est que tu fasses la mitzvah,
oui,
et le salaire qu'on va te donner, attendez, le salaire qu'on va te donner, c'est que tu auras une Shana Tova, une bonne année. C'est un peu la kavana qu'on a tous à Rosh Hashanah. Tu dis, bon, voilà, Dieu, je vais faire des mitzvot, demain une bonne année. C'est quoi une bonne année? Ben, une bonne année, c'est une bonne année, c'est tout. Et une bonne année, une bonne santé, une bonne parnassa, la saison, que tout se passe bien. Je connais pas, moi, tes mondes, je connais pas. Là, si vous voulez, là, on passe à autre chose, là.
On est passé de classe.
Ah oui, complètement, très clairement. Là, on est passé de classe. Là, on te dit, écoute, la bonne année, tu l'auras, t'inquiète pas. C'est pas ça qu'on va parler maintenant. On va parler du vrai salaire, pas du bonbon.
Oui, mais on a besoin de cours particuliers, nous. Peut-être qu'on n'est pas capable de.
Eh ben, c'est ce qu'on te dit. C'est pour ça que l'Admorazaken te dit, te l'expliquer. Je peux pas t'expliquer entièrement, parce qu'on peut pas le comprendre tant qu'on n'est pas en haut. Par contre, d'ailleurs, tout ça, vous savez, on dit que le Gaon de Brisk, il disait la chose suivante, il dit, l'Admorazaken, l'auteur du Tania, il parle avec une telle facilité des sphères célestes de l'Atzilut, que, exactement, que ne peut parler avec une telle facilité seulement une personne qui est là-bas. Et c'est pas un chassid qui a dit ça, hein. C'est un lituanien qui a dit, mais j'ai étudié le Tania, un grand. Il a dit, j'ai étudié le Tania, mais il parle avec une telle facilité de ce qui se passe en haut, qu'on est obligé de dire qu'il était là-bas, qu'il ressent ce qui se passe là-bas. Alors que nous, on est tout en bas. Alors, c'est pour ça que tu dis, bon, écoute, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas encore, vous y serez plus tard, mais juste je vous explique ce qui vous attend en haut, comme ça vous comprenez la différence. C'est comme, tu vois, un gars qui investit, il fait un mauvais investissement. Maintenant, lui, il se rend pas compte, parce que lui, il est tout feu, tout flamme. Le banquier lui montre, vous inquiétez pas, ça rentre. Maintenant, t'as un bonhomme qui est tout au fond. Il dit, mais non, c'est pas là qu'il faut mettre. Rajoute ça, tac, rajoute ces détails, achète ça, prends ça. Ah, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, le Saint-Germain, moi, je veux du stock option tout de suite, moi, qu'est-ce qu'il raconte, ces histoires, il me raconte, Eh ben non, c'est ce qu'on te dit. On te dit pas du tout. On te dit, le tzadik, il te dit, Misrara Neda Ma'uta. En analysant le salaire de la mitzvah, c'est là que tu comprends l'ampleur de la mitzvah. Alors, je vais vous donner maintenant des techniques. D'accord? Je voudrais avancer un petit peu. La question est très simple. La question qu'on se pose tous, c'est comment faire pour vivre une mitzvah pour avoir la kavana. C'est un peu la question de tout le monde. C'est-à-dire, tu dis, bon, bah, d'accord, finalement, tu demandes de vivre quelque chose, mais je le vois même pas, je le sens même pas.
Oui,
c'est du rêve, tout ça. C'est du rêve, tout ça. Comment ça marche?
Surtout quand des fois on essaye et on peut pas.
Hein. Surtout que je vais vous dire, il y a un problème. Il y a un problème très clair qu'on n'en est pas là, si je vous explique à l'oral. C'est que, il y a un problème très simple. C'est que, la Torah, le salaire des mitzvot, etc., c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose que tu touches. Alors que ce monde-ci, les plaisirs de ce monde et l'argent, etc., c'est quelque chose que tu touches. Donc tu comprends, tu vas voir un bonhomme, tu dis, mais écoute, tu sais, tu auras en haut, etc., et tout, il dit, bon, très bien, on verra en haut.
D'accord? Ça coûte pas, ça.
Oui. Tu lui dis, écoute, tu vas travailler, tu vas gagner de temps, tu travailleras plus, tu gagneras plus.
Ça fera plus.
C'est tout. Là, le bonhomme, ça lui parle. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis non mais attends, tu comprends, en vérité, il faut rajouter les mitzvot. C'est difficile à parler. Comment tu on parle pas un homme comme ça? C'est pas quelque chose de tangible.
Non, parce que son référentiel, c'est justement un monde matériel.
Eh oui. Alors comment on fait? Comment on fait? Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est kesef. Kesef, c'est quoi kesef? C'est l'argent. Vous savez pourquoi kesef on appelle l'argent? Kesef en hébreu, c'est l'envie. Parce que quand t'as 100, t'as envie 200. Et quand t'as 200, t'as envie combien?
400.
Et quand t'as 400, t'as envie combien? Dit la Gemara. 800.
Ouais.
Pourtant, tu dis attends. T'es passé de 100, tu passes à 200, 200, tu passes à 300, ça marche pas comme ça. Parce que kesef, il y a une relation d'envie avec l'argent. Je lui parle, elle me parle, ça veut dire que j'en veux plus, j'ai une envie, j'ai une attirance, il y a une attirance vers l'argent. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Alors comment on peut recréer la même chose dans la Torah? Avoir un kesef vers Dieu, avoir une envie vers Dieu à tel point que j'ai fait 2 mitzvot, tac, j'en veux encore 2. J'en ai fait 4, j'en veux 8. Comment on arrive à ça?
Quelle motivation?
Comment t'arrives à un niveau comme ça? Alors, surtout que d'autant plus, il y a un autre problème. Là, je vous parle des problèmes, on parle des solutions. Surtout qu'il y a un autre problème. Donc là, il y a que des problèmes. C'est-à-dire, on parle d'un élément qui n'est pas tangible, qu'on n'a même pas envie. Alors que de l'autre côté, tu as un monde qui est concret, qui est réel et qui est et qui paye cash. Le Yitzhara, il te paye cash. Ce monde, il te paye cash. Pas, on te paye pas dans 10 ans, dans 20 ans, on verra.
Il y a pas de délai.
Le Yitzhara, il te paye cash. Tu travailles, tu reçois, c'est tout. Tu fautes, tu reçois tout de suite. Il y a pas de problème. D'autant plus qu'on est submergé par la Parnassa. On est submergé par... Vous savez comment c'est comparé à la Parnassa ? Alors la Parnassa, c'est intéressant. La Parnassa dans la Torah, c'est comparé à l'eau. Et dans l'eau, c'est assez paradoxal. D'un côté, l'eau, c'est la bracha. On prie tous pour l'eau, on a prié pour l'eau. L'eau, c'est la bracha, c'est la parnassa. Mais d'un autre côté, lorsqu'il y a maïm rabim, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, on peut se noyer. Tu pries pour la pluie, dès qu'on te donne beaucoup d'eau, t'es pas content. Comment c'est possible? Je te donnais beaucoup d'argent. Tu m'as demandé 100 euros, je te donnais 1 million. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, mais ça marche pas comme ça. On te dit parce que le problème, c'est dans la parnassa. Après, chacun il a sa limite. T'as des gens que leur limite c'est 1 million, d'autres c'est 10 millions, d'autres c'est 100 millions. Bah, je vous le souhaite. D'accord? Pas de limite. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Maïm Rabim. Maïm Rabim, c'est quoi Maïm Rabim? C'est que il y a les eaux tumultueuses, c'est les eaux de la parnassa. D'accord? Qui nous noie. Comment on fait dans tout ça? Alors, sur ça, le Baal Shem Tov nous donne une technique. C'est ça la question. Comment on fait? Tu commences à te dire, maintenant, tu me dis, voilà, écoute, il faut que tu fasses une fila avec Kavana, etc. Comment tu veux que je fasse une fila avec Kavana? Comment tu veux? Regarde-moi. On parle de quelque chose qui est pas concret, on parle de quelque chose qui est abstrait, on parle de quelque chose, en plus, que de l'autre côté, j'ai l'argent qui est clair, qui est concret, qui est réel. En plus, j'ai la Parnassa qui est là, qui me noie. Comment tu veux que je pense à tout ça? Sur ça, on a un mot du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il commente un pasouk dans la parashat Noach. Dans la parashat Noach, il est écrit que lorsque l'eau a commencé à inonder le monde, et que donc, ça y est, ça commençait à monter au niveau des pieds, qu'est-ce que Dieu a dit à Noach? Dieu lui a dit, Bo el hateva. Viens vers la teva. Dans la teva, vers la teva. Alors, le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Il dit, teva en hébreu, ça veut dire quoi? Teva en hébreu, c'est-à-dire une boîte, une arche. Non, Teva avec un tav. Là, c'est écrit Teva avec un tav, donc Teva avec un tav, c'est une boîte. Donc, viens dans la boîte, viens dans le bateau. Mais Teva en hébreu, ça veut dire aussi le mot.
Le quoi?
Le mot. Un mot. M-O-T. Ah bon? Le mot. Un mot. Teva. D'accord. Lorsqu'on appelle la teba dans la synagogue, c'est la boîte, c'est parce que c'est une boîte. Mais teva en hébreu, ça veut dire aussi un mot. C'est un mot. Et en fait, dit le Baal Shem Tov, lorsque Dieu dit à Noach, il lui dit, bo la teva, viens vers la teva, spirituellement, ça veut dire viens dans le mot. Quel mot? Il dit, c'est très simple. On s'adresse ici à un juif qui est submergé par la parnassa. La parnassa, c'est bien, mais des fois, on peut sentir qu'on est en train de se noyer. Maïm rabim, t'as des eaux, les eaux, ils sont en train de noyer. Alors le juif lui pose la question, il dit à Kadosh Baruch, comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à tenir? Comment je vais réussir à penser à toi alors que je suis submergé par ici et qu'entre temps il y a l'autre qui est là qui dit moi je te donne ma barque et toi tu me dis attends, comment je vais faire? Alors Dieu dit c'est très simple. Si tu veux savoir c'est quoi ta bouée de sauvetage? C'est Teva, c'est le mot. C'est quoi le mot? Dil Baal Shem Tov, c'est les mots de la Tfila. Les mots de la Tfila. De la Torah mais surtout de la Tfila. Ça veut dire, pour être plus clair, la Tfila a cette capacité et ce pouvoir à immerger quelqu'un dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu, dans le domaine de la Kedusha, pour contrer la noyade de la Parnassa. La noyade de la Parnassa, la noyade du Yetzer Hara, la noyade des plaisirs de ce monde, la noyade de la matérialité tout court. On aurait pu penser que c'est la Torah, les mots de la Torah. C'est bien les mots de la Torah, mais c'est pas ça ce qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est la Tfila. Et dans ce commentaire Torah Or sur Noach, Parashat Noach, l'Admor HaZaken, donc le même auteur de ce livre, mais dans son commentaire sur la Parasha, il explique que ça c'est l'erreur des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires pensent qu'une bonne prière c'est fait pour les rabbins. Ils disent bon, bah, nous on est... voilà, ceux qui sont toute la journée, ils étudient, ils vont faire une bonne prière, ils vont prendre le temps qu'ils ont besoin. Mais nous, comme on est des hommes d'affaires, bon, on paye. Bon, au Hachem, on fait nos mitzvot, on fait ce qu'on peut et on paye. Mais la prière, bon, je suis là. En vérité, dit l'Admor HaZaken, ils font une grave erreur. Pourquoi? Parce que la tfila est beaucoup plus importante pour un homme d'affaires que pour un homme qui est dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est dans la Torah, il n'est pas noyé. Donc comme il n'est pas noyé, il n'a pas besoin spécialement d'investir dans la barque. Parce qu'il n'est pas noyé. Il a encore pied. Vous comprenez? Lui, il a encore pied. Il est là, on lui amène à manger. Il n'y a pas de problème. Il est dedans, lui. Il nage. Tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc lui, il n'a pas vraiment besoin de la tefila. Il a besoin, mais je veux dire, c'est pas sa bouée de sauvetage. C'est la raison pour laquelle on a même des exemples dans la Gemara de Talmidei Chachamim, de géants de l'envergure de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était à un niveau très très haut, qui ne priaient pas. Ils faisaient que le Shema. Mais oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas besoin de la tefila. Ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire pour eux, la Torah, ils sont déjà, ils sont pas noyés dans la Torah, ils baignent dans la Torah, donc c'est parfait. Mais qui a vraiment besoin de la tefila? C'est nous, les hommes d'affaires, ceux qui sont dans le monde, ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Mais c'est spécifiquement eux qui ont besoin de la tefila. C'est-à-dire, oui, mais comment tu veux qu'on fasse une bonne tefila? On est occupé, tout juste si on l'a fait. Et en plus, on a pas le temps, on est occupé, on est préoccupé. Alors, Admor HaZaken, il explique là-bas dans Torah, il dit qu'il y a quelques moments, dans la semaine dans laquelle on peut faire. Ça peut être chez certains le lundi, le jeudi, surtout le Shabbat. Le Shabbat, il y a plus de temps. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce que j'ai en train de dire, c'est qu'une bonne tefila, le Shabbat, une bonne tefila dans la qualité de vivre un petit peu ce que tu dis, c'est beaucoup plus vital pour un homme d'affaires que pour un homme de Torah. C'est la réalité, parce que l'homme de Torah, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, parce que de toutes les façons, il n'est pas noyé. Par contre, l'autre, toute la semaine, il est noyé, etc., il est essoufflé. Si même le Shabbat, il est essoufflé, comment tu veux qu'il tienne? C'est le Shabbat, lorsqu'il va faire une bonne tefila, ou pas que le Shabbat, lorsqu'il va faire une bonne tefila, il va essayer de prier comme il faut, et bien c'est ça sa bouée de sauvetage. Parce que ça, c'est un moment dans lequel il parle à Kadosh Baruch Hu, et là, c'est un moment dans lequel il restructure, dans lequel il se rappelle quel est l'essentiel. Vous savez, dans une journée, on a trois prières. Bon. T'as une prière le matin, une prière l'après-midi, une prière le soir. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que t'as envie de faire le matin quand tu te lèves? T'as pas forcément envie de prier. Tu dis, bon, j'ai la pêche, j'ai peut-être envie d'attaquer les dossiers qui m'attendent, etc. Tu dis non. Tout de suite, tu vas aller prier. Tu penses pas, il y a pas de mail, il y a pas de WhatsApp, il y a pas d'élection, il y a rien du tout. Maintenant, on va prier. D'accord? On va travailler, on va aller prier. Après, t'arrives l'après-midi, c'est mincha. Tu dis, bon, maintenant, tu arrêtes tout pour prier pendant 4 jours. T'arrives le soir, tu dis, maintenant, c'est arbitre. Pourquoi Dieu, il fait ça? Mets-moi une prière par semaine, après, sois tranquille, c'est bon, j'ai demandé ce que j'avais besoin, après, c'est fini. C'est vrai. C'est un peu bizarre. On prie 3 fois par jour la même chose. Évidemment, surtout quand t'as un mincha suivi d'arbitre, tu vois. Le bonhomme, il vient de demander. 5 minutes plus tard, il refait la même demande. Mais la même, tu vois, mais juste, à quoi ça sert? C'est très simple. En fait, le but, c'est pas simplement de demander, de dire, bon, j'ai demandé. Le but, c'est de se rappeler, la tefila, c'est comme un moment dans lequel il y a un repère. C'est mon repère. Ça veut dire, pendant tout le reste de la journée, je vais être là, je travaille, etc. Mais il est important d'avoir un repère. S'il n'y a pas de repère, on peut pas tenir. S'il n'y a pas de repère et que c'est un grand mélange dans lequel on ne sait pas si c'est le travail, si c'est les enfants, si c'est Dieu, si c'est la parnassa, si c'est, on ne sait pas ce que c'est, on te dit, ça peut pas tenir, ça. Comment tu veux que ça tienne? Là, tu es noyé. Comment tu fais pour te sauver de la noyade? Il faut un repère. C'est important d'avoir un repère. Et comme ça, quand t'as un repère, même si tu sais qu'après c'est difficile, parce qu'après il y a des moments difficiles, mais comme tu te rappelles qu'il y a un repère, tu arrives à tenir. Alors, la vérité, c'est que le Baal Shem Tov, il dit que c'est valable aussi pour la Torah. Les mots de Torah. Quand tu étudies un cours de Torah. Un cours de Torah, on doit pas venir seulement en cours de Torah, hein, en tant qu'obligation. J'ai pas le choix, je suis venu en cours de Torah parce qu'il fallait venir en cours de Torah. Un cours de Torah, c'est aussi un îlot. C'est un moment dans lequel on essaie d'exprimer sa vraie nature, celui que je suis vraiment, celui que j'aimerais être. C'est très important. Parce que c'est ça ma bouée de sauvetage. Après, je vais continuer à nager. Peut-être oui, peut-être pas. Peut-être que je vais noyer. Peut-être que j'aurai pied, peut-être que j'aurai pas pied. Mais ça veut dire, le moment du cours de Torah, et surtout le moment de la tefila, c'est un moment dans lequel je suis vraiment celui que je suis. Je suis celui que je suis. Et c'est comme ça qu'on peut tenir. C'est comme ça qu'explique le Baal Shem Tov. Et donc, c'est pour ça, que je termine avec ça, après on va continuer dans le texte. C'est comme ça qu'explique le Rabbi Rachab. Je voudrais, parce que j'ai préparé pas mal de trucs dessus, parce que je pense que c'est un sujet important, ça. Enfin, que tout est important, mais ça c'est un sujet, je pense, qui est prioritaire. Dans le Rabbi Rachab, l'avant-dernier Rabbi de Lubavitch. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a beaucoup de gens qui pensent, et je pense qu'on rentre tous un peu dans cette catégorie, ils pensent par erreur, que c'est pas grave si on sert à Kadosh Baruch Hu sans amour et sans crainte. C'est vrai, c'est quand la dernière fois qu'on a senti qu'on a aimé Dieu ou qu'on a craint Dieu. Ça, c'est peut-être au début, quand on fait Tchouva. Après, ou bien à Kippour, à Shoshana, ou pendant le mois des Louls, et encore. Après, on rentre dans une sorte de routine, et il n'y a plus l'amour et la crainte. Alors, je te dis, oh, attends, comment tu fais sans l'amour et la crainte? Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ben, écoute, les tzadikim, eux, ils ont l'amour de Dieu, eux, ils ont la crainte de Dieu. Mais bon, nous, attends déjà qu'on fasse les mitzvot, c'est déjà pas mal. D'ici là, Hanoun Berachum. D'accord? Et c'est là que vient le Rabbi Rachab dans son commentaire, Etzachaim. Il dit la chose suivante, il dit, mais pas du tout. Il dit, c'est une erreur que les gens font. Aimer Dieu et craindre Dieu, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut le faire. Et pas seulement que tout le monde peut le faire. C'est que ceux qui sont dans les affaires, on en a besoin plus que tout le monde autre. Plus que tout autre. Ça veut dire que, ceux qui sont dans les affaires, qui sont dans la matérialité, ils sont obligés de contrer ça, de contrer cet amour, cette course, cette envie vers la matérialité, ils sont obligés de contrer ça avec une envie vers la spiritualité. Donc ça se travaille, ça. Ça, ça vient pas tout seul. Je lisais ce Shabbat un article dans un magazine, comme on voyait, un magazine religieux qui vient de New York. Et dans cet article, ça m'a beaucoup plu parce que c'est mon ancien Rosh Yeshiva lorsque j'étais à New York qui parlait. Alors il est très rarement interviewé, lui, il supporte pas d'être interviewé, mais bon, Rosh Hashem, cette fois-ci, il a accepté pour mon plus grand bonheur. Et donc c'est un interview qui dure, enfin un interview qui est sur une quinzaine de pages, enfin bon, c'est quelque chose de très profond, avec plein de thèmes très intéressants, très variés, etc. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, donc celui qui l'interview, il lui dit, aujourd'hui, les gens disent, même chez les religieux, les gens disent que la avoda, le travail sur soi, n'est plus d'actualité. Qu'aujourd'hui, il faut juste agir et c'est tout, c'est ce qui compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'influencer les autres et c'est tout, etc. Et là, le Rosh Yeshiva, il a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous me racontez que le travailler sur soi, c'est plus d'actualité parce que ça devient trop compliqué? Il dit, mais parce que moi, bon, il a déjà un certain âge, grâce à Dieu. Il dit, mais vous croyez que lorsqu'on était jeune, vous croyez que c'est facile de servir Dieu? Qui a dit que c'est facile? C'est pas facile, c'est dur de servir Dieu. Parce que c'est contraire à ma volonté. Qu'est-ce qu'elle veut, ma volonté? Qu'est-ce que moi, je veux? Qu'est-ce que mon corps veut? Mon corps, il veut faire ce qu'il veut. Dès que je commence à dire, oui, mais il faut servir Dieu. Il faut servir autre chose que moi. Mon corps n'est pas intéressé. C'est dur. C'est très dur. Mais c'est la seule façon de tenir. Si on ne travaille pas pour Akadosh Baruch Hu, on peut pas, si tu travailles pas, si je me travaille pas, je me pose pas des questions, qu'est-ce que je peux rajouter, comment je peux me travailler, comment je peux faire une meilleure tefila, comment je peux rajouter dans la Torah. Si j'essaye pas de quitter la routine, automatiquement je me noie. Et quand on se noie, ben vous savez comment ça marche quand on se noie. Quand on se noie, on peut jamais remonter. Quand on remonte, c'est qu'on est mort. Ah oui. C'est-à-dire, tant que t'es vivant, tu descends, tu peux que descendre. Et une fois que t'es en bas, t'es mort, là tu remontes. Enfin, t'es mort, personne, tous en bonne santé. C'est la vérité. Ça, c'est la même chose. Ça veut dire que dans le tourbillon qu'il y a dans la Parnassa, etc., si tu te prends pas à temps, c'est terminé après. Après, tu peux plus remonter. Après, il faut un rabbi pour aller prendre un maître nageur, pour aller te sauver. Tu peux pas t'en sortir.
Enfin, des fois, un bon coup de talon, là.
Ouais, bon. Ah oui, mais, en général, lorsqu'il a perdu souffle et qu'il est perdu et qu'il panique.
Oui, non, je panique.
C'est mort.
C'était debout.
T'es perdu, t'es perdu.
Hein. Non, mais on a vu des gens. On a vu dans le monde des artistes des gens sombrer dans l'alcool, dans la drogue.
Moi, c'est pour ça que je vais vous dire ce qui m'a marqué dans ces élections, pour ouvrir une petite parenthèse présidentielle, parce que le Baal Shem Tov dit que le tout on doit tirer un enseignement, c'est que finalement les partis qui ont marché, c'est les partis, et on l'a vu clairement, c'est les partis qui ont cherché à pousser les gens à réfléchir, à vouloir changer. Maintenant, en bien ou en mal, on pense qu'on pense, parce que bon, on sait très bien quelle est la position principale du peuple juif, ou oui ou non. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Je veux dire, on a eu un phénomène, c'est un vrai phénomène qui vient de se passer. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs décennies. D'accord? Donc c'est un vrai phénomène ce qui s'est passé. D'où, comment expliquer ce phénomène? C'est que les gens, en vérité, ils en ont marre de la routine. Ils veulent du changement. Ils veulent un nouveau message. Maintenant, quitte même à prendre un risque, à prendre un débutant, un amateur, on n'a aucune preuve, il n'a fait aucune preuve. D'accord? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais c'est pas grave, ils veulent du changement. C'est dire. Ça veut dire, non mais ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. C'est pour nous montrer l'importance de la Kavana. Comment il les a avec la Kavana? Il leur a dit, mais arrêtez de croire ce qu'on vous raconte, on vous raconte des bêtises.
Il est passé à cause des gens qui étaient en face de lui, qui eux n'avaient pas.
Monsieur Benita, c'est pas aussi simple que ça.
Les gens, ils ont voté.
Monsieur Benita, 20%, 24% des électeurs sont pas bêtes.
Ils voulaient autre chose.
Ils voulaient autre chose.
C'est 8 millions de personnes.
Il faut expliquer comment quelqu'un peut voter pour une personne qui n'avait pas fait ses preuves.
8 millions de personnes.
C'est même pas acheté sur plan, il n'y a pas de plan. Il n'y a rien.
Il n'y
a rien du tout. Il a un programme, madame.
Hein? Il n'y avait personne en face.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de programme. On ne sait pas qui est son gouvernement. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il est d'accord avec tout le monde. Non, je ne critique pas. Mais c'est normal, il démarre. Et comment tu veux? Quand on démarre, on démarre. C'est la vérité. Et pourquoi ils ont voté pour lui? Parce que, moi, j'ai vu quelques extraits qu'on m'a montré sur YouTube. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans ses yeux, tu voyais la passion. Le bonhomme, il avait la volonté. Il a la volonté. Il a la volonté. Alors, Mamash, tu sens qu'il avait la passion, il avait la volonté. Alors, si je pourrais appliquer ça par rapport à nous, les Avdil, il avait la Kavana. Il était dedans. Il y croit. Et c'est pour ça qu'il est convaincant. Même si tu vends de l'air, t'es convaincant. Plus fort de raison, j'espère qu'il vendra pas de l'air. J'espère que tout sera bien pour nous.
Il y a eu la même chose dans
un animal. Oui, je sais.
Adolf Hitler.
Je sais, je sais.
Avec la parole, il a retourné avec... le de tous ses compatriotes.
Mais lui, il avait la cavana. Ouais.
Et aujourd'hui.
Mais il avait la cavana dans le mal. C'est un peintre. Et son programme était contraire à sa propre vie. Il parlait de la race aryenne alors que lui-même il n'était pas aryen. Comment ça marche?
Dans le même cas, marchez-moi. Les gens qui écoutent quelqu'un, un chanteur, ils vont laisser.
C'était un bon aryen.
Ouais. Ça m'intéresse plus, je le jette et j'en prends un autre.
Oui.
Mais c'est ça ce qui va nous arriver dans la politique.
Oh, ça. Non, mais... D'abord, vous savez qui va passer? Vous savez qui va passer?
C'est ce qui va se passer. Il y aura encore un petit qui va se former dans les
Macron,
coulisses.
Hein, de qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce
que c'est? Non, mais c'est pas gagné d'avance.
Il n'y a rien gagné d'avance. On espère. Qu'est-ce que c'est?
Les Français, ils ont surpris tout le monde.
Qu'est-ce que c'est, Miguel?
Ah oui, c'est génial.
Mais je veux ça dans 5 ans. Si Pierre, il avait été accepté à l'école de
Marine, c'est excellent pour la lire.
Bon.
Mais c'est vrai.
Hein.
Oh,
c'est vrai,
c'est vrai. Dans Israël.
Du monde aurait
Il est beau, il est jeune.
Oui, mais il avait une passion. Moi, je l'ai dit à quelqu'un avant les élections. Moi, je lui ai dit, quand on m'a montré les extraits. Regardez. Vous savez, je suis très très peu la politique. Monsieur Akos. Monsieur Akos, je suis très très peu la politique. Donc, je sais pas comment était Fillon avant le scandale dont il était victime ou peu importe. D'accord? Mais attendez, je sais pas comment il était avant, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que, je commence à suivre un petit peu qu'après, parce qu'il faut quand même voir où on va. Et dans ce que j'ai vu, et je l'ai dit même à ma femme, etc., enfin, j'ai dit à des amis, je dis, je sais pas, quand je regarde Fillon, il a le regard éteint. Je vous promets, j'avais ce sentiment. Il y avait un regard éteint, c'est tu... Non, il avait un programme, le regard était...
Ils l'ont déchiré,
bien sûr qu'ils l'ont déchiré. Ah oui, ils l'ont déchiré. Non, mais bien sûr.
Finalement, il s'est pris une veste.
Et pourtant, il a plus 5 ans d'avant.
Il s'est pris une veste.
Oui.
Il aurait dû te voir avant.
C'est vrai. En tout cas, ce que je veux montrer par ici, c'est voilà, c'est la cavana. C'est que quand tu crois à quelque chose, quand t'es dedans, ben ça marche. Ben voilà, imagine la différence entre une personne qui n'y croit pas. Vous savez, quand une personne y croit, regardez par exemple, excusez-moi, je refais la parenthèse parce que j'aime pas parler politique, mais regardez par exemple un gars comme Poutou, c'est un khmar absolu ce bonhomme. Mais le gars, il y croit à ce qu'il dit. Le gars, il y croit, hein. Il croit 100% à ce qu'il raconte. Hein, il vit dedans, il est dedans. Non, il raconte des bêtises monstrueuses.
Mais, sans parler de Poutou, Mélenchon aussi, il y croit, hein.
Ah, il y croit. Eh, il est passé, il allait y passer, lui, hein. Bon. Alors, Rabotaille, pour revenir à notre sujet, comme j'ai dit aujourd'hui, on va faire ce coup à l'oral. Le Rav Nissan Nemanov.
Moi aussi, la même chose que vous. J'aurais voté Netanyahou direct. Entre Mélenchon et Le Pen, je. Elal.
Le vote est là.
En deux semaines, il y aurait eu plus
de. Comme ils ont dit pour le noir avec Le Pen, c'est pas son terminal.
Vous inquiétez pas, Dieu, il sait ce qu'il fait.
Absolument.
Non, mais que Dieu, il sache ce qu'il fait, nous, on n'a aucun doute. Mais s'il nous avait proposé ça, tu m'excuses, mais. C'est un peur absolu.
Non, c'est pas le pays dans lequel j'ai envie que
mes enfants soient.
Pourtant, en Russie, avec des communistes, il y avait quand même des juifs. Hein.
Elle est pas folle.
Ah non, elle est pas folle.
Non, elle est tout sauf folle. Elle est pas folle.
Elle est diabolique folle.
Ah, d'accord. Folle, elle n'est pas folle. Non. Elle n'est pas bête non plus.
Pour arriver à ça et puis que les Français lui fassent confiance.
Marchez-moi. Bon. Regardez comment Hachem il fait les choses. Comment Hachem il l'a mis dans sa bouche. C'est une bourde qu'elle a fait sur le Veldiv.
Bien sûr.
C'est une bourde énorme qu'elle a fait. En une phrase, elle a détruit des mois de campagne.
Non, elle a enlevé le goût aux juifs de.
Ah bah oui, pas qu'aux juifs. À d'autres qui disaient, bon, elle est pacifique, alors bon, elle
a. Il n'empêche qu'il y a un électorat.
Bon. Oui. On m'a dit, bon, je reviens maintenant à notre sujet. Le Rav Nissan Nemanov. Rav Nissan Nemanov, c'était le directeur de la yeshiva de Brunois. Bon, Rabota, vous aurez tout le temps chez vous à la maison de parler politique et vous en avez parlé certainement. On va revenir au cours. Donc, on va revenir à notre bouée de sauvetage. Le Rav Nissan Nemanov, c'était le directeur de la yeshiva de Brunois. Et lui, il passait des heures à faire la tila. Cette fila durait des heures. À tel point que, vous savez, il y avait même des fois les élèves de la yeshiva. Quelques élèves qui, Il était dans un coin d'une pièce et les élèves de la yeshiva, il y avait des fois qui se cachaient des fois derrière les murs juste pour l'entendre faire cette fila. C'était une fila, vous voyez, c'était, comment dire, une fila, ça veut dire, il pouvait vraiment dire un mot. Après, il s'arrête, il réfléchit, il pleure, il la simra, il danse, etc. Après, il dit encore un mot. Et comme ça, la fila pourrait durer mamage des heures, hein. Hein? Ah, cette fila, elle pouvait durer des fois 5-6 heures, sans problème. Plus même.
Là, il passe à direct.
Lui, vous savez, Yom Kippour, mais je vais vous dire, Yom Kippour, il restait debout à la même place de l'entrée à la sortie de Kippour. Sans dormir, sans bouger. Il enchaînait tout. Arvit, Shacharit, Mincha, Moussav, tout. Et il dépassait encore. Hein. Il dépassait encore la sortie de Kippour. Ah, c'est pas, on parle pas n'importe qui. Et le Rav Nissan Emanov, il avait les élèves de la yeshiva, hein, qui étaient un peu plus, peut-être un petit peu plus modernes, entre guillemets, mais bon, qui lui disaient, oui, vous comprenez, vous, vous êtes d'ancienne époque, de la Russie, et bon, vous, c'est vrai, on accordait beaucoup d'importance à la prière, à la tfila, et à la kavana, etc. Maintenant, de nos jours, le rabbi, il a dit qu'il faut tout changer, et le rabbi, il a dit, on montait au nom du rabbi, des choses qu'il a pas dit, le rabbi, il a dit que maintenant, il faut aller s'occuper des autres, etc. Donc, c'est pas grave, si on fait une petite fila, on se prend pas la tête, pas de kavana, etc. Alors bon, le Rav Nissan Emanov, il leur a dit, mais c'est pas possible de raconter des bêtises, qu'ils ont mis ces trucs-là dans la tête. Maintenant, les élèves, ils l'ont tellement répété, qu'ils se disent, écoute, peut-être que je suis l'ancienne génération, je suis à côté de la plaque. Alors, la fois suivante, il est parti chez le Rabbi, il a posé la question au Rabbi. Il a dit, écoutez, Rabbi, je voulais pas l'écrire parce qu'il écrivait beaucoup, il correspondait beaucoup avec le Rabbi, il a dit, je voulais vous demander de vive voix. Mais voilà, les élèves, ils arrêtent pas de me dire ça. C'est pas possible. Bon, j'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos divrei Torah, vos Chachamim. J'ai pas jamais entendu ça, mais les élèves, ils arrêtent pas de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le Rabbi, il s'est levé comme ça avec une certaine, j'ai pas envie de dire colère, mais avec une grande frustration. Il a dit, mais, alors, je vais vous le dire en yiddish, c'est pas grave, il leur dit, esis dor gor avil desvara. Ça veut dire, il a dit, mais c'est une logique. Il a dit, mais c'est une idée. En français, ça donnerait une idée sauvage de penser comme ça. Une idée sauvage de penser comme ça. Ça veut dire, il faut être un voyou pour parler comme ça. Chasve shalom. Bien sûr qu'il faut continuer. Et en particulier, quand je dis encore une fois, en particulier le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, il faut faire un effort. Si quelqu'un a l'habitude de venir parler comme à une certaine heure, essayez de venir un petit peu plus tôt pour essayer de faire cette fille-là un petit peu mieux. D'accord? Non, je reste chez l'homme, on vise personne. D'accord? Il faut s'efforcer, d'accord? Il faut s'efforcer.
David, il va changer de matelas, il a dit.
Même pas de l'eau.
Il faut s'efforcer de vivre la tefila encore mieux. Et je voudrais terminer avec une anecdote, une histoire. Le rabbi, il a raconté l'histoire suivante. Il a dit, lorsque ma maman, donc il parlait de sa mère, vous savez que le père du rabbi est décédé en exil. Il a été exilé, pas en Sibérie, mais bon, il a été exilé au Kazakhstan, d'accord, avec sa mère. Et malheureusement, il en est mort. Il a attrapé froid, les maladies, etc. Il en est mort. Il était exilé parce qu'il diffusait la Torah, évidemment. Hein. Et donc, d'ailleurs, le rabbi s'est marié sans ses parents. Parce que le rabbi avait déjà eu le temps de sortir, ses parents l'avaient poussé à sortir. Et donc, lui, il voulait attendre pour le mariage et tout. Ses parents lui ont dit, non, tu attends pas, tu te maries. Son père lui a dit, il l'a interdit, tu n'attends pas, tu te maries, il faut te marier, etc. Donc il correspondait avec des lettres, etc. Bon. Entre temps, malheureusement, son père est niftar. Et donc ils ont fait des pieds et des mains pour faire sortir la mère du rabbi. Donc elle est passée du Kazakhstan, après elle est passée par la Russie, etc. C'est très compliqué pour sortir. Et à la fin, elle a pu sortir. Elle est arrivée en Russie. Elle est sortie de Russie. Tavshin Zayn, 1947. Elle a pu sortir de Russie. Pour regroupement familial, etc. Mais c'était très compliqué. C'était très, très, très compliqué. Elle a pu sortir. Et donc, le rabbi, qui était déjà à New York avec son épouse, il a fait le voyage, bien sûr, depuis New York, parce que sa mère, elle arrivait à Paris. Et plus loin que Paris, on ne pouvait pas aller, parce qu'après, c'était la Russie. Donc il a fait le voyage, il est venu en avion à Paris pour accueillir sa mère. Pour accueillir, je veux dire, le rabbi. Après, d'ailleurs, vous savez que le rabbi nous a montré un exemple de comment il respectait sa mère, avec toutes les occupations qu'il avait. Il allait voir sa mère tous les jours. Tous les jours. Il passait environ une demi-heure, 20 minutes avec eux, tous les jours. Il n'y a pas un jour qui s'est passé sans qu'il n'ait pas passé voir sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, ma mère, elle habite à côté, et j'ai pas les occupations du rabbi, très très loin de ça. Je ne fais pas. Même un coup de fil, on ne fait pas toujours.
Surtout à son niveau, qu'on y trouvait le temps.
Et surtout à son niveau, parce que c'est une priorité pour lui. Alors, je racontais justement que lorsque le rabbi était parti à Paris pour aller accueillir, pour aller accueillir sa maman, il raconte, il dit, lorsque je suis venu, j'ai vu beaucoup de juifs qui sortaient de Russie. Qui eux aussi étaient sortis de Russie, Et je suis rentré dans la synagogue, j'ai vu comment ces juifs priaient, c'était un bonheur. Tu vois des gens qui étaient là, déjà 2h l'après-midi, ils sont encore en train de prier, avec la kavana, avec le nigoun, avec la chanson. Tu sentais, c'était un mamash, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, le rabbi dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Mais bon, c'est vrai, on ne sait pas. Jacques Marais dit, un homme ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de son ami. Mais quand tu vois quand même quelqu'un qui est là, qui est à 14h encore en train de prier, 15h en train de prier, et il n'a pas commencé sa prière à 11h du matin. Il a commencé, tu sais que le bonhomme, il est debout depuis 6h du matin, il a étudié pendant 4h avant de commencer cette fille-là, et qu'après il commence à faire cette fille-là. Tu dis, waouh, tu dis, c'est le bonhomme, il vit cette fille-là. Maintenant, qu'est-ce que dit le rabbi? Il dit, ces mêmes personnes que j'ai vues à Paris, ces gens qui venaient de sortir, donc, ces réfugiés, hein, ce qu'on appelait les réfugiés qui venaient de sortir de Russie, ils sont venus à New York par la suite. Il y en a qui sont partis en Israël, il y en a qui sont venus à New York, qui ont préféré venir à New York pour un regroupement familial, etc. Et il a dit, ces mêmes chassidim, alors sans viser personne, évidemment, sans parler de, sans les nommer, mais il dit, j'ai remarqué que ces mêmes chassidim, bah maintenant, leur fille-là, ils la font avec le cas, normalement, comme si de rien n'était. Et il dit, je me suis posé la question, comment c'est possible?
C'est le cas qui est comme ça.
Comment c'est possible? C'est-à-dire, tu dis, mais attends, ces bonhommes, ils étaient en Russie. C'est-à-dire, en Russie, on pouvait pas prier. Ils devaient faire la guerre pour prier. Et dans la guerre qu'ils devaient faire pour prier, ils faisaient la tefila pendant des heures. Et là, lorsqu'ils sont dans le pays de la liberté, dans lequel il n'y a pas de guerre, tu peux faire la tefila autant que tu veux, personne ne te dit rien du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout d'un coup, il faut plus la tefila. C'est là que le rabbi expliquait, il a dit, c'est là le grand piège de la démocratie et de la liberté. Le grand piège de la démocratie et de la liberté, c'est quoi? C'est que d'un côté, évidemment, c'est un bonheur, parce qu'on peut accomplir l'intérêt mieux comme on veut. Ça veut dire qu'au temps, par exemple, il fut un temps dans lequel il y avait des soldats qui venaient pour nous déporter, d'accord? Aujourd'hui, on a des soldats qui sont là pour nous protéger. Pour le moment, en tout cas, Baruch HaShem et Bezrat HaShem. Donc c'est énorme, tu dis, mais c'est la liberté, c'est extraordinaire, on a fait du chemin. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille, c'est quoi? Ben, le revers de la médaille, c'est que lorsqu'un juif il se sent plus menacé, ben du coup, très souvent, il se calme, il arrête d'avancer. Et c'est pour ça que le rabbi, dans ce commentaire, il dit la chose suivante. Il dit, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de faire des tefillot plus longuement, parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la vie, elle va relativement bien, et surtout qu'on a fait tchouva, et que ça va relativement bien. Mais il dit, en vérité, c'est un piège du Yetzer Hara, ça. Parce que, tant que ça allait mal, quand t'étais réfugié, alors là, ton Yetzer Hara, il peut pas te raconter la tefillot ne sert à rien, parce qu'il voyait que la tefillot servait à quelque chose. Donc là, tu faisais une bonne tefillot, quand tu venais de faire tchouva. Mais maintenant que t'as fait tchouva, maintenant que Baruch HaShem, maintenant t'as pris une vitesse de croisière, qu'est-ce qu'il dit Yetzer Hara? Il dit, c'est bon, maintenant t'es à New York, maintenant. Maintenant t'es à New York. Maintenant c'est la statue de la liberté, maintenant. Maintenant t'es au pays de la liberté, tu fais ce que tu veux ici. Et là, tu baisses la pression, et là, le Yetzer Hara, il te pousse à ne plus rien faire du tout. Donc là, c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber. Donc surtout quand on est en vitesse de croisière, et que Baruch HaShem, on a déjà fait teshuva, qu'on fait son Shabbat, qu'on fait ses mitzvot, etc. Ne pas tomber dans le piège de croire qu'on est plus concerné par la kavana. Au contraire, on est doublement, et on est toujours aussi concerné par la kavana, on a besoin de la kavana. Donc voilà, l'objectif du cours d'aujourd'hui était d'expliquer deux points. On a juste expliqué deux points aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup dans les mots, mais c'est pas grave. On a expliqué premièrement que le plus grand salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est le fait de voir la récompense, le salaire, le résultat de la mitzvah. C'est la première chose qu'on a expliqué longuement. D'accord? Donc, de la même façon, on te dit, tu veux comprendre pourquoi la kavana c'est important? Regarde le résultat! Regarde la différence entre une mitzvah sans kavana et une mitzvah avec kavana. L'autre, elle reste bloquée au rez-de-chaussée, l'autre, elle monte premier, deuxième, troisième niveau. Quel rapport? Ça n'a pas de rapport, Bichlal. C'est incomparable. Du salaire de la mitzvah, on comprend l'importance de la mitzvah. Et le deuxième fois qu'on a expliqué, on a donné quelques techniques, si on peut dire, pour dire que faire une bonne fila, ça concerne en priorité et davantage l'homme d'affaires, celui qui est dans les eaux tumultueuses de la Parnassa toute la semaine, d'accord? Et que lui, plus que tout le monde, il a besoin de rentrer dans les mots, de rentrer dans la teva, de rentrer dans la tfila, de rentrer dans les mots de la tfila. Et lui, plus que personne, a besoin de l'amour et de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué. Et c'est là, et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on arrive à tenir de Shabbat en Shabbat, de tfila en tfila, de bouée de sauvetage à bouée de sauvetage, jusqu'à qu'on arrivera au rivage, Bezrat Hashem, avec la venue de ma chère très rapidement.
Moi, je pense, oui.
Ouais. Celui qui vient, il récupère sa mise.
On l'a fait vite.
Non, on partage la mise à ceux qui viennent. Si tu n'as pas fait vite, tu mets la main, tu vas être riche.
Alors, Rabotaï, David Manon.